Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Histoire et Mémoire, émission organisée par les Amis du Musée d'Art et d'Histoire de Dreux, dont j'ai le plaisir d'être le conservateur, Damien Chantraine, ici au micro. Je suis aujourd'hui accompagné par une personne qui nous est chère à Dreux, dorénavant, qui s'appelle Pascal Cross. Bonjour Pascal.
Bonjour Damien.
Alors Pascal, vous êtes conseillère scientifique pour une exposition, même deux expositions cette année, au Musée d'Art et d'Histoire de Dreux et à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu. Alors la première se terminera le 20 décembre, donc une exposition de longue durée, on en reparlera du contenu, et elle sera complétée par une exposition à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu du 29 mai au 5 juillet. Alors ce sont deux expositions qui vont nous parler de Vlaminck. Pascal, Vlaminck, c'est une personne que vous connaissez bien.
Alors effectivement, Damien, c'est une personne, un artiste avant tout, que je côtoie depuis de nombreuses années, puisque je suis en charge de l'inventaire de son œuvre depuis plus de 20 ans maintenant, et que je travaille dans le cadre des archives Vlaminck, en collaboration avec Madame de Vlaminck, la dernière fille du peintre, à la poursuite donc de l'inventaire de son œuvre.
Alors, pourquoi donc Vlaminck au Musée d'Art et d'Histoire de Dreux? Je vais tout de suite vous donner la réponse. Vlaminck est un être d'abord extraordinaire, extraordinaire de liberté dans sa peinture, et le Musée de Dreux étant un musée libre, je dirais, et présentant différents modes d'expression artistique, notamment la peinture, avec ce beau Claude Monet au rez-de-chaussée du musée des années 1919-1920, il nous paraissait intéressant de compléter justement avec cet artiste qui s'est installé dans la région, dans l'actuelle agglomération drouaise, plus précisément à Ruelle-la-Gadelière et plus précisément encore dans cette demeure fabuleuse qu'est la Tour Hilière et qui existe encore. Alors Vlaminck s'y est installé en 1925 et cette relation presque charnelle avec ce territoire de création que constituent ces confins du Perche, de la Beauce et puis de la région parisienne, eh bien, nous permet de parler de cet artiste aujourd'hui. On a réuni Pascal tous les deux, puisque on a travaillé au commissariat de cette exposition très longuement, pour présenter de très belles œuvres au public, qu'on espère nombreux bientôt. On a réuni quelques belles œuvres peintes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce fond de peinture? Est-ce qu'il a été d'ailleurs uniquement peintre, Vlaminck?
Alors effectivement, nous avons réuni, fait un choix à travers cette collection familiale dont je tiens à dire tout de suite qu'il importait beaucoup à Madame de Vlaminck de rattacher Vlaminck à son territoire puisque, comme vous l'avez mentionné Damien, il s'est installé en 1925 à la Tour Hilière et que ce territoire est vraiment prégnant pour le peintre, c'est-à-dire qu'on assimile Vlaminck à la Tour Hilière comme on assimile Giono à Manosque, comme on assimile André Gide à son village de Normandie. Donc il était impérieux, je dirais, puisque ça n'a jamais été fait, de rendre un hommage à l'œuvre de Vlaminck en son territoire. Il y a beaucoup travaillé, puisque de 1925 à 1958, il n'a cessé de travailler. Il a bien sûr énormément travaillé sur le paysage. C'est un homme pétri de talent et comme dit sa fille, les fées s'étaient penchées sur son berceau. C'est-à-dire que non seulement il a peint, mais il a aussi écrit. Il a fait de la gravure et il s'est énormément attaché, je dirais, à la vie du quotidien en participant, je dirais, aux tâches de la vie quotidienne. Et c'est principalement ce dont témoigne l'exposition de la chapelle à l'Hôtel-Dieu. Vlaminck sous l'objectif, puisque parallèlement à l'exposition des peintures, il nous importait de restituer ce que fut cette maison d'artiste, ce que fut la Tour Hilière, qui y vivait, comment on y vivait. Donc, nous avons articulé cette exposition de reproduction photographique conservée par Madame de Vlaminck, qui conserve un véritable fond photographique sur toute cette vie de Arueil-Lagadelière. Nous avons articulé l'exposition autour de plusieurs thèmes et principalement l'idée de l'existence d'un cocon familial. Il faut savoir que Vlaminck a été marié très jeune. D'un premier mariage, il a eu 3 filles. Ce mariage n'a pas fonctionné et il a rencontré une jeune femme du nom de Berthe Combes, avec qui il a eu 2 filles, Edwige et Godelieve de Vlaminck, sans qui, comme Damien l'a dédicacé dans le catalogue, rien n'aurait pu se faire, puisque c'est grâce à elle et son généreux prêt que nous faisons l'exposition. Et donc, il nous importait de restituer en reproduction photographique cette vie de cocon de la tourilière. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer une famille de 4 personnes, les parents, les enfants, en même temps une maison ouverte, puisque les filles du premier mariage venaient aussi, une maison ouverte aux voisins, puisque l'idée très forte dans la famille Vlaminck, c'est la solidarité de territoire, la solidarité de voisinage, et qui a existé tout au long de cette période de vie. On a aussi voulu montrer à quel point, si cette famille cocon pouvait parfois sembler, d'apparence en tout cas, repliée sur elle-même, ce n'était en fait pas le cas, puisque nous avons intitulé une seconde partie « Le petit théâtre de la Tourilière ». Vlaminck, contrairement à la légende qu'on en a fait, était quelqu'un d'extrêmement accueillant, ouvert, qui connaissait énormément de monde, qui adorait l'échange social, même si c'était quelqu'un de virulent, de subversif, de extrêmement arrêté dans ses idées. Mais la Tourilière a toujours accueilli énormément de visiteurs, des visiteurs anonymes, des visiteurs célèbres, que je vous énumérerai tels qu'ils me viennent à l'esprit, à savoir... Alors, les peintres Vandongen, Marquet, Utriot. En tant qu'écrivain, il a eu énormément d'amis écrivains. Lucien Descaves, Louis-Ferdinand Céline et d'autres. Marcel Aimé, bien sûr, avec qui il a fait ce livre « La table aux crevés ». Lucien Descaves, grand ami et voisin, puisque Lucien Descaves avait une maison aussi en Eure-et-Loire à Senonge. Il se trouve qu'il était directeur, président plutôt du jury des Goncourt et ami de longue date de Vlaminck. Et donc, il connaissait parfaitement l'intérêt et le grand penchant de Vlaminck pour la lecture. Et Lucien Descaves a énormément donné de livres de service de presse, à Vlaminck, qui lisait tout cela avec passion, ce qui fait que le lieu de la Tourilière est aussi un lieu extrêmement riche en littérature.
Oui, alors justement, vous parliez de Vlaminck, écrivain. Alors, c'est extrêmement étonnant pour ceux qui ne connaissent que sa peinture ou ses gravures sur bois. Et en réalité, c'est un excellent écrivain. Je crois même qu'il était plaisant pour lui d'entendre qu'il est un bon écrivain, peut-être même plus plaisant encore que d'entendre qu'il est un bon peintre. Et parmi ses amis, on ne l'a pas encore cité, mais il y avait Georges Simenon. Moi, je pense toujours au commissaire Maigret, mais vous voyez, c'est vraiment en effet très intéressant de constater qu'il se situe dans cette veine un peu réaliste d'ailleurs, si réaliste dans son écriture qu'il dépeint parfaitement en fait, la région dans laquelle il s'est installé. En quels termes il en parle justement de cette région de Dreux, des paysages avoisinant la Tourilière ?
Alors écoutez, il en parle de nombreuses fois. Puisque lorsqu'il achète cette maison en 1925, il se rend avec sa femme Berthe Combes à moto à sillonner le pays du Timrée, du Drouet et du Perche. Il s'arrête devant cette maison qui est une maison de paysans où il y a un panneau à vendre et il dit j'achète. Le lendemain, il ne la visite pas. Il va chez le notaire et l'achat est fait. Et dans l'un des ouvrages qu'il a publié, je crois que c'est Portrait avant décès, qui a été édité durant la guerre, il parle très bien de la découverte de ce lieu, la manière dont il l'a visité, la beauté de la plaine, et il le dit, il l'écrit lui-même, alors qu'il est d'origine belge, il dit, sans le savoir, j'avais retrouvé mon chez-moi. C'est donc à quel point il est attaché certainement à ses origines et l'idée de trouver ce nid où il pourra s'épanouir avec sa famille, où il pourra s'épanouir avec sa peinture, puisque en fait, dès lors qu'il arrive dans ce coin de la Tourilière, il a quand même pour idée, je le cite à nouveau, de mettre en accord son état d'esprit avec ce qu'il voulait peindre. Et il semblerait que cette grande plaine qui donne devant son atelier, que les petits coins du Timrée, les petits coins du Perche, énormément touché, je dirais, touché par la beauté du lieu, touché aussi, il ne faut pas l'oublier, par les gens qui l'habitaient. Vlaminck a très peu représenté la figure humaine, mais dans ces paysages, on trouve très souvent des personnes, des paysans ou des paysannes qui pratiquent les travaux des champs et qui lui importent de rappeler.
Alors, je trouve que Vlaminck, il y a une véritable incidence sur sa peinture, justement. C'est ce parcours géographique par cercle concentrique, c'est-à-dire que on est autour de Paris, d'abord à Chatou, avec Derain, puis Ruelle Malmaison, et puis ensuite Auvers-sur-Oise, et puis on s'éloigne au fur et à mesure. Ce qui le pousse à l'extérieur de Paris et de sa proche banlieue au début du XXe siècle, c'est nécessairement cette industrialisation qui va grandissante et qui fait que la banlieue parisienne est de plus en plus polluée. Et là, il a ce désir de campagne. Ça, c'est le premier mouvement qui l'amène à la Tourilière, c'est-à-dire vouloir vivre au sein même de la nature, dans un respect même de cette nature, presque envahie par cette nature. Et le deuxième mouvement, vous venez d'en parler justement, c'est ce retour aux origines, quelque part. Parce qu'il retrouve dans ces paysages, autour de la Tourilière, autour de Dreux, les paysages qu'ont connus ses parents, en fait, dans les Flandres, dans la Belgique flamande, à Ektischov, me semble-t-il. Et c'est comme un appel à une seconde peinture. C'est-à-dire que de la peinture très lumineuse, très colorée, des débuts fauves, hein, on en reparlera peut-être justement de cette relation de Vlaminck aux avant-gardes, mais qui précède son arrivée dans la région drouaise, eh bien, à partir du moment où il est dans la région, son œuvre s'assombrit. Et tout simplement, bien parce que il semble, là aussi, par l'intermédiaire de sa peinture, retourner aux sources de la peinture flamande, aux sources de la peinture hollandaise, qui est une peinture très en contraste d'ombre et de lumière, qui est une peinture très sombre. Je pense à Risdael, par exemple, dans ses paysages, avec des ciels tourmentés, orageux, qu'on retrouve chez notre peintre.
C'est tout à fait cela. Quand il dit j'avais besoin de mettre ma peinture en accord avec moi-même, il exprime ce qu'il ressent extrêmement profondément, c'est-à-dire que même s'il était d'une nature plutôt enjouée et joyeuse, c'était certainement quelqu'un d'extrêmement complexe, quelqu'un qui en 1925, eh bien, avait vécu la guerre de 14. Il en a été terrifié. Il l'a d'ailleurs écrit lui-même, j'ai perdu toute foi en la civilisation. Et le fait de s'éloigner de Paris tient justement à s'éloigner aussi de la civilisation et de retrouver cette nature dont sa compagne Berthe Combes dit qu'elle est pour elle sa vraie compagne. Plus ça va, plus il m'apparaît que finalement, la répétition de ces paysages, parce qu'effectivement, il a produit beaucoup d'œuvres de paysages, il y a presque un aspect dévotionnel. dans ce travail. On n'est pas dans la série, on est dans le rendre hommage indéfiniment.
Alors on va encore parler de ce déplacement après cette pause musicale. Le déplacement de Paris à la campagne. C'est un déplacement en réalité qui est vécu par nombre d'artistes de la région parisienne. Et je pense notamment à des amis de Vlaminck, qui étaient Suzanne Valadon, Maurice Utriot, André Uther, qu'on appelait d'ailleurs dans les années 20 la Trinité maudite, et qui ont quitté la butte Montmartre pour s'installer en Val-de-Saône, donc non loin de Lyon, dans un château, le château de Saint-Bernard. Et là, il me semble qu'il pourrait y avoir, dans cette relation d'amitié qui la reliait à quelques autres peintres, un encouragement justement à ce déplacement vers la campagne. Les artistes ont besoin de se mettre au vert, tout simplement, hein, pour renouer avec la sincérité, peut-être, ou leur moi intérieur, comme vous disiez précédemment. Alors, je parle de Suzanne Valadon, Maurice Utriot, André Uther, sont des artistes qui ont véritablement fait partie de ce que l'on qualifie d'avant-garde. Qu'est-ce que c'est, Pascal, l'avant-garde artistique au début du XXe siècle? Parce que c'est pas évident pour tous nos auditeurs, ça. Comment on pourrait le caractériser?
Alors,
nous, on le sait.
Je vais essayer de la caractériser, en tout cas, par rapport à Vlaminck. Vlaminck est un autodidacte qui s'est mis assez jeune à la peinture, à la faveur d'une rencontre avec André Derain, peintre, lui, issu d'une famille intellectuelle et bourgeoise.
Alors là, on est dans les années 1904-5.
Là, on est dans les années 1900, puisqu'il
ouais,
a,
1900.
Il a rencontré Vlaminck lors du déraillement d'un train en 1900. Très vite, il parle de peinture. Très vite, il décide de prendre ensemble un atelier, de travailler sur le motif et de quitter le cul-de-sac de l'impressionnisme, je dirais, en utilisant des couleurs pures. Donc, ils louent ensemble un petit atelier à Chatou pendant un an. Et après, Derain doit partir au service militaire et donc il y a l'abandon de l'atelier. Donc, il commence un petit peu à produire. On a pour Vlaminck quelques productions, je dirais, pré-fauves entre 1901 et 1903-4. Et à partir de 1904-1905, c'est l'éclosion. Éclosion fauve. Pour la petite histoire, ce nom de fauve et de fauvisme.
Qu'est-ce que c'est, ce nom de fauve? C'est les peintres qui font rugir la couleur.
Nous vient simplement d'un article qui est apparu dans l'illustration dans le cadre du Salon d'automne de 1905, où une salle, la salle 7, était consacrée à des peintres que je nommerais, non pas dans l'ordre alphabétique, Vlaminck, Matisse, Derain, Camoens, et qui étaient tous exposés dans cette salle. Et au milieu de cette salle trônait une sculpture classique d'un sculpteur qui s'appelle Albert Marc. Et le critique s'est exclamé, c'est Donatello dans la cage aux fauves. D'où le nom de fauvisme pour tous ces peintres qui travaillaient avec de la couleur pure, à même parfois le tube appliqué sur la toile, et qui surtout étaient en totale rupture avec ce qu'on connaissait jusqu'alors par le biais principalement des salons.
Et alors avec un déni complet de la perspective, parfois... des compositions un peu abracadabrantes, hein, je dirais, qui ne correspondent pas du tout à la réalité, mais aussi des couleurs qui ne correspondent pas au réel, hein, du rouge à la
Exactement.
place du vert, etc.
Alors, c'est
J'ai en tête le
en
portrait de
ça
Madame
que
Matisse.
c'est exactement le portrait à la rayure verte. Bon, effectivement, c'est une peinture qui est subversive et on peut qualifier ces peintres de révolutionnaires, puisque à l'époque, c'était le cas. Concernant Vlaminck, il l'a lui-même dit, puisqu'il a été un temps anarchiste, il a écrit dans une revue anarchiste, ce que je n'ai pas pu faire dans la vie, je l'ai fait dans la peinture. La peinture a permis de m'exprimer, sinon je serais passé sur l'échafaud. Donc il a parfaitement conscience que ce qu'il fait, c'est une expérience, c'est-à-dire que souvent on parle de l'école fauve, ce n'est pas du tout une école, c'est une expérience qui par la suite a réuni des personnes qui travaillaient de la même façon, et c'est une expérience intense, mais c'est une expérience courte, puisque en 1907, c'est terminé.
Et alors, Vlaminck, par la suite, on est autour de 1910-1911, fait une petite incursion chez les cubistes. Alors, ça,
Alors,
c'est vraiment très ambivalent chez Vlaminck, hein, parce que
c'est
il fait
très
un
ambivalent.
essai, mais quand même, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup
C'est
ça.
très ambivalent. Il a, dès les années 1907, il l'a écrit lui-même, qu'il a le sentiment, avec la peinture fauve, de tomber dans le décoratif. Donc il a bien conscience qu'il faut abandonner ça. S'ensuit une période difficile, de certainement de tâtonnement, de réflexion. Et en 1907, il est certain qu'il voit l'exposition Cézanne au Salon des Indépendants.
Cézanne qui venait de mourir.
Cézanne qui venait de mourir, exactement. Et l'idée de travailler plus, davantage sur le volume, que sur la couleur elle-même, est un chemin qui l'intéresse vraiment et dans lequel il s'est engagé, je dirais, avec beaucoup de succès, puisque ce qu'il a produit durant cette période qui s'échelonne en gros entre 1908 et 1916, pardon, c'est une production d'environ 1000-1200 œuvres, avec effectivement une incursion cubiste. On a en gros une 30-35 œuvres qui se réfèrent à cette
Peintre,
façon de
oui.
composer. Merci. Et puis il l'a très vite abandonné, d'abord parce qu'il était en opposition totale avec le cubisme, d'abord sur le plan intellectuel, puisque c'était quelque chose pour lui qu'il considérait comme une construction intellectuelle et non pas comme quelque chose qui venait d'une humanité ou d'une émotion. Et il l'a d'ailleurs écrit, le cubisme, c'est la guerre.
En effet. Alors, c'est après cette période-là qu'il revient peut-être un peu à la construction cézannienne, avec des aplats de couleurs qui se juxtaposent, parfois des coups de pinceau sous forme de tracés diagonales, en hachures. Ça, c'est très cézannien. On a une œuvre qui va être présentée au musée d'art et d'histoire de Dreux, qui représente sa maison à Auvers-sur-Oise et qui est vraiment dans cette veine qui date des années 1919.
On est
20.
vraiment dans la transition de la période cézannienne, parce qu'il y a encore une recherche des volumes, et on est déjà dans la période suivante, qu'on appelle la période d'Auvers, c'est-à-dire une forme de retour au classicisme sans renier le passé.
C'est pas rien d'être passé par Auvers, surtout quand on est admirateur de Van Gogh.
Oui, alors Auvers, peut-on considérer que c'est un choix de hasard? En 1901, il a visité l'exposition Van Gogh qu'avait organisée la galerie Bernheim Jeune, et il est sorti de là. Il l'a écrit d'ailleurs, ce jour-là, j'aimais Van Gogh plus que mon père. Donc le choix de Van Gogh, le choix d'Auvers, pardon, a certainement un sens. Il faut dire aussi que Berthe Combes, qui deviendra sa seconde épouse, était déjà à Auvers et que sa fille aînée, donc de ce second mariage, Edwige, est née en 1920 à Auvers. Il faut dire aussi que non loin de là vivait une colonie, non pas une colonie d'artistes littérateurs, puisque on avait Georges Duhamel, on avait Charles Vildrac, dont la femme Rose Vildrac avait ouvert la galerie Vildrac rue de Seine. Donc c'est loin de Paris, mais c'est un autre cocon avant le cocon de la Tourilière.
Eh bien, la Tourilière, justement, revenons à cette belle demeure, une demeure avec des environs donc, dont il a représenté les paysages en peinture. Il y a aussi quelques figures, mais enfin très peu, comme on l'a dit. Là, sa peinture se modifie. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure avec cet art flamand du clair-obscur qu'on peut retrouver dans un grand nombre d'œuvres, à tel point d'ailleurs qu'on a intitulé l'une des sections de l'exposition qui est visible au musée d'art et d'histoire de Dreux, l'œuvre sombre. Hein. Mais il y a aussi des œuvres très colorées. Et on vient de parler de Van Gogh, par exemple. Vlaminck est quelqu'un qui cherche à représenter le rythme des saisons. Il représente d'ailleurs les saisons extrêmes, c'est-à-dire l'été et l'hiver, pratiquement pas l'automne, pratiquement pas le printemps. Et lorsqu'il représente l'été, notamment dans une œuvre qui est intitulée L'Émeule, on sent là l'art de Van Gogh, on sent le jaune pur, l'orange, qui viennent se juxtaposer, là aussi en hachure très expressionniste. Et je dirais que quand il est installé à la Tourilière, c'est un artiste qui s'exprime de façon très libre, très rapide. D'ailleurs, certaines œuvres ont des craquelures de naissance, c'est-à-dire qu'il a tellement réalisé ses peintures rapidement qu'il ne leur a même pas laissé le temps de sécher. Donc quand les différentes couches qui se sont superposées ont séché, ben, ça a fait des petites craquelures, voilà, qui sont irréversibles maintenant, mais qui témoignent de ce côté très hâtif dans la création.
Alors, c'est vrai que la peinture de Vlaminck se caractérise par cette rapidité d'exécution qui peut aussi expliquer qu'il est beaucoup produit. Pour en revenir à la couleur, je dirais que les œuvres de Vlaminck de la dernière période et l'émeule précisément dont vous parliez, la boucle est bouclée puisque à la fin de sa vie, Vlaminck revient à la couleur pure, revient à la matière épaisse sur la toile, et on ne peut s'empêcher de penser que d'une certaine manière, il revient à une technique fauve.
Oui, complètement, oui. Et puis il y a ces œuvres encore différentes qui sont réalisées de nuit. Ces œuvres des années 45, 50, 55, ce sont des œuvres qui représentent les pompes à essence. Et là, je dirais qu'il y a presque une référence à la peinture américaine, à la peinture d'Edward Hopper, par exemple, avec toute la mélancolie qui succède aussi. Bien, ce constat que nous sommes véritablement dans une société moderne, en mouvement, avec des tracteurs qui se substituent au travail très direct de l'homme qui, à l'origine, touchait la matière, quoi, touchait la terre, en fait, hein, avait ce rapport charnel avec la terre. Et là, ce sont des machines, en fait, qui succèdent à l'homme. Et ça, Vlaminck, qu'il n'est pas très heureux de ce constat-là. Et en même temps, ces œuvres qui sont représentées de nuit, qui représentent les stations essence, qu'on peut voir aussi au musée d'art et d'histoire de Dreux, dans la dernière section de l'exposition, bien, il y a les néons, les lumières des néons. Donc il y a une sorte de fascination aussi pour cette autre lumière. Ça n'est pas la lumière du soleil, hein, ça n'est pas le clair-obscur, c'est la lumière de la modernité dans la nuit. Et je crois qu'en fait, c'est une très belle conclusion à cette œuvre de Vlaminck, ce constat, ben, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, qu'il est rattrapé par une forme de modernité. Peut-être une désillusion aussi, hein, qui marque, je dirais, cette dernière partie de son œuvre.
Et un témoignage.
Et un témoignage, en effet. Merci beaucoup, Pascal, pour
Merci
ta
à vous,
présence.
Damien.
Et à bientôt
À bientôt.
sur Histoire et Mémoire.